Céline Picmal, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes gérante chez Comgest. On va parler avec vous des marchés, des perspectives sur ces marchés. Après un été, est-ce qu'on le qualifierait d'étonnant, puisque on avait parlé du choc du Brexit. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les marchés, on a l'impression qu'il a été totalement effacé.
Balayé, oui. Exactement. Donc effectivement, on a eu une secousse fin juin, au moment de l'annonce de ce Brexit. Et puis après, les marchés actions se sont envolés, puisqu'on a assisté à une hausse d'à peu près 11% depuis ce point bas, autour du 25 juin. Donc on a une envolée massive. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les marchés depuis février, on a fait quasiment plus 23%. Donc on voit qu'effectivement, les marchés ont beaucoup monté. Et donc aujourd'hui, c'est la rentrée. Et on se demande tous, est-ce qu'effectivement, on n'est pas en surchauffe? Est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'il y a un raisonnement rationnel derrière cette hausse ou pas? Et donc, je me suis posé la question en préparant un petit peu cette interview pour aujourd'hui. Et la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est qu'il y a une logique derrière cette hausse. Il y a une logique et qu'il est possible que les marchés actions restent attractifs pour les investisseurs au cours des prochains mois. Alors, pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que finalement, on en a beaucoup parlé dans les journaux récemment, mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Voilà, c'est qu'on le veuille ou non, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Au cours des 10 dernières années, si vous étiez un investisseur, vous aviez deux grosses classes d'actifs sur lesquelles investir. C'était les obligations d'un côté et de l'autre côté, l'immobilier. Ces deux classes d'actifs se sont extrêmement bien comportées au cours des 10 dernières années, tirées essentiellement par la baisse des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on sent que de ce côté-là, pour le coup, on est vraiment en surchauffe. On est vraiment en surchauffe pour plusieurs raisons. La première, c'est que les taux d'intérêt sont au plus bas depuis 1880. On est dans un environnement de taux qu'on n'a jamais connu historiquement sur les marchés financiers. Donc, c'est possible que ça aille plus bas, mais oui, on est quand même dans l'inconnu.
Oui, parce qu'on a vu ça avec les derniers mois.
On est dans des niveaux, pour le coup, limite absurdes sur les taux d'intérêt. Donc sur les obligations, on se dit que le couple risque-rendement n'est pas forcément des plus attractifs. Et puis du côté de l'immobilier, on a vu pour le coup des craquements. On a vu des craquements notamment sur l'immobilier haut de gamme, que ce soit à Londres avec des SICAV qui ont explosé à l'issue du Brexit, et à New York, à Vancouver, à San Francisco. On a vu un retournement de l'immobilier haut de gamme. Et le retournement de l'immobilier haut de gamme, en général, c'est un indicateur avancé pour l'immobilier dans son ensemble en tant que classe d'actifs. Donc c'est vrai que les actions ont beaucoup monté, mais que en tant qu'alternative, elle reste intéressante aujourd'hui par rapport à ces deux autres classes d'actifs qui ont très bien fait au cours des 10 dernières années.
On pourrait dire que c'est ce que souhaitent depuis le départ les banques centrales, d'essayer de faire en sorte que les investisseurs reprennent du risque. Donc on va dire que c'est ce qu'elles souhaitent. Les investisseurs le font, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, effectivement, quand même, sur le côté évaluation des marchés? Certaines valeurs, certains titres, on a vu des progressions spectaculaires.
Alors, c'est vrai qu'effectivement, vous disiez, c'est ce que souhaitaient les banques centrales. À mon sens, ce que souhaitaient les banques centrales, c'était peut-être que cette monnaie finisse par aller dans l'économie réelle.
Oui, là, hein, c'est plus compliqué.
Donc, c'est vrai qu'elles ont été extrêmement accommodantes, que ce soit au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Europe, en Angleterre. Elles ont été très accommodantes. On a eu 2 trillions de dollars qui ont été injectés dans les marchés par les banques centrales au cours du premier semestre seulement. Mais malheureusement pour eux, je pense que l'objectif n'était pas de faire monter les actifs, mais plutôt de relancer la machine économique. Et la problématique à laquelle nous sommes confrontés encore aujourd'hui en cette rentrée 2016, c'est que malheureusement pour les banques centrales, cette injection de monnaie n'a pas été investie dans l'économie réelle. Cette injection de monnaie, elle s'est tournée vers l'inflation des actifs, mais en aucun cas vers l'investissement productif. Donc ça, c'est quelque chose qui rend notre positionnement en tant qu'investisseur compliqué. Ça rend notre positionnement un peu compliqué parce que ça veut dire que depuis finalement 2011, toute la hausse du marché, elle n'est pas tirée par la croissance de bénéfices d'entreprise. Donc on a une croissance parce qu'il n'y a pas d'alternative, parce que en termes de valorisation, finalement, quand vous avez un marché qui se paye 17 fois, ça vous offre un rendement de 5,9%. Donc vous dites bah, finalement 5,9 par rapport à de l'obligataire à zéro ou par rapport à du cash en négatif, c'est pas si mal. Donc vous avez eu ces éléments qui ont porté. mais pas de croissance de bénéfices. Et c'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui, je pense qu'il faut être très attentif parce qu'il y a tout un débat autour du positionnement. Se dire finalement, les injections monétaires vont avoir un impact sur l'économie, vous allez voir ce que vous allez voir, finalement les choses vont s'améliorer, l'économie va se retourner, le système bancaire va mieux se porter et donc il faut changer de positionnement et aller s'investir massivement sur des sociétés cycliques et des sociétés bancaires. À mon sens, pour le coup, ce serait une erreur que de changer de pied aujourd'hui. Il ne faut pas changer de pied parce qu'il n'y a pas de changement notable du côté de l'investissement productif. Il n'y a pas eu d'investissement de la part des entreprises. Les entreprises ont utilisé leur cash pour acheter leurs titres.
Oui, ça, on a vu ça.
Voilà, c'était 40% de la hausse des bénéfices aux États-Unis depuis 2011 qui ont été tirés par des rachats de titres. Elles ont utilisé leur cash pour augmenter leurs dividendes, pour rendre du cash à l'actionnaire. Elles ne l'ont pas utilisé pour investir dans leur croissance et dans leur appareil productif. Et donc, malheureusement, tant qu'il n'y aura pas ça, tant qu'il n'y aura pas ce grain de sable, on ne pourra pas dire qu'on a changé de paradis. C'est possible que ça arrive un jour.
Oui.
On voit avec l'élection américaine, aujourd'hui, le débat, il a changé. On parle Trump-Clinton, les deux parlent de grands plans de relance des infrastructures. Monsieur Abe parle de plans de relance des infrastructures. Peut-être que Madame Merkel ne va pas être candidate à sa réélection et il y aura aussi un changement de politique du côté de la Banque Centrale Européenne. C'est possible.
Alors on voit
mais aujourd'hui,
on
n'y est pas.
Ouais, voilà. On voit les banques centrales qui sont en train d'imaginer encore d'autres solutions. Vous parliez de la Banque du Japon. Puisque ça ne fonctionne pas, alors on entend parler d'hélicoptère monnaie, c'est pas évident de savoir ce qu'il y a derrière, mais acheter des actifs tout azimut, créer de la monnaie, on voit qu'elles sont un petit peu arrivées au bout du bout, c'est-à-dire dans une impasse, il faut trouver d'autres solutions, mais il n'y a toujours pas cette croissance.
Tout à fait, on est arrivé au bout du bout, on n'a pas d'impact sur la croissance économique, et c'est pour ça qu'effectivement, on voit des peuples, hein, on a vu le Brexit, on voit des élections qui vont arriver en Hongrie, on voit un peuple italien qui sûrement ne va pas soutenir le gouvernement italien, on voit des peuples qui se révoltent, qui disent, bah, écoutez, on en a marre de votre plan d'austérité, qui ne mène à rien dans un environnement de récession. Donc du coup, on est content que ça soit positif pour la finance londonienne ou pour la finance new-yorkaise ou parisienne, mais nous, on ne voit pas l'intérêt pécuniaire ou notre intérêt social de faire ces plans de relance massifs du côté monétaire. Donc on a effectivement une révolte du côté des peuples qui va sûrement se traduire à la fin par un changement politique de la part des différents gouvernements. Il y aura sûrement un changement. Mais aujourd'hui, nous n'y sommes pas encore et il faut faire extrêmement attention parce que quand on n'y est pas, on n'y est pas. Ça fait 5 ans qu'on attend ce changement et qu'on est déçu. Et malheureusement, j'ai peur qu'on soit déçu. J'ai peur qu'on soit déçu pour plusieurs raisons. Du côté des bénéfices, on a eu une légère amélioration aux États-Unis sur le premier semestre. Mais il faut voir ce qu'il y avait derrière. C'était la baisse du dollar, puisque la Fed était beaucoup plus accommodante que ce qu'on pensait. La deuxième chose qui a été positive, c'est qu'on a eu une stabilisation du côté des prix des matières premières. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a eu une baisse des taux d'intérêt qui a continué, donc qui a été favorable pour les entreprises qui étaient endettées. Mais au cours du deuxième semestre, est-ce que ces choses vont continuer? Je ne le pense pas. Je pense qu'on risque d'être un petit peu déçu du côté du momentum des bénéfices, parce que malheureusement, bah on le voit déjà, si les chiffres sur l'économie américaine ne sont pas si mauvais, bah on risque de reparler de resserrement monétaire. Donc qui dit resserrement monétaire dit hausse du dollar. Et hausse du dollar, c'est pas bon pour les sociétés exportatrices américaines, malheureusement. Donc ça, c'est un élément négatif. Deuxième chose, reprise un petit peu du marché de l'emploi. On a vu une baisse du chômage aux États-Unis. Donc les salaires aux États-Unis sont en hausse de 3,6% depuis le début de l'année. Quand les salaires montent à un rythme de 3,6% dans un environnement qui est limite déflationniste, c'est compliqué d'avoir des hausses de marge pour les entreprises. Et puis le troisième élément, on parlait des taux d'intérêt. On a déjà eu une baisse très avancée du côté des taux d'intérêt. Donc là aussi, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et du côté des matières premières, pareil, on a déjà touché des points bas. Donc tout ça nous dit qu'on a eu effectivement un espèce d'alignement de planète sur ce premier semestre qui nous permettait d'avoir un momentum du côté des bénéfices en même temps qu'une valorisation attractive qui faisait qu'on pouvait justifier d'investir sur des sociétés plus cycliques. aujourd'hui, je pense que vraiment, il faut rester positionné sur un portefeuille solide, de qualité croissance, dans un environnement dans lequel les marchés actions pourraient être encore attractifs.
Eh bien, on suivra ça. Merci Céline Picmal.
Merci beaucoup. À très bientôt Didier. Au revoir.